Bienvenue dans La Triférence, le premier podcast français dédié à la trisomie 21, du point de vue des concernés, de leurs proches et des professionnels. Je m'appelle Raphaëlle et je suis la maman d'Arthur et de Charles, qui a chamboulé ma vie en arrivant avec un chromosome supplémentaire et m'a donné envie d'offrir ma voix pour l'inclusion. Ensemble, on parlera autant des beaux moments que des difficultés pour montrer que de nos jours, la trisomie c'est une différence, mais pas un obstacle. Je vous donne rendez-vous le 21 de chaque mois pour découvrir la vie ordinaire de ces personnes extraordinaires. Le hasard a voulu qu'elle soit l'épisode 13 et il se trouve que c'est le numéro préféré de Ludivine que j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui dans le podcast. C'est également une des premières personnes que j'ai contactées quand j'ai débarqué sur les réseaux sociaux. Ce qu'elle partageait de sa précieuse petite fille me semblait assez extraordinaire et ils avaient l'air si heureux que même si je m'en sentais encore incapable, une part de moi était envieuse et curieuse de connaître la même chose. Ce même bonheur, ce même arc-en-ciel dans leur vie. Merci Ludivine de nous prouver à quel point la vie avec la trisomie 21 mérite d'être racontée au monde entier. Tout de suite, je vous laisse découvrir l'histoire extraordinaire de cette fabuleuse famille outre-Atlantique. Bonjour Ludivine, comment vas-tu ?
Très bien Raphaël, comment ça va ?
Très bien. Un grand merci à toi d'avoir accepté cette invitation à venir témoigner dans la Triférence. Depuis le temps que je t'en parle surtout, merci beaucoup pour ta patience.
Écoute, c'est avec plaisir. J'adore suivre tes épisodes chaque mois et je suis très touchée que ce soit moi qui puisse partager mon histoire aujourd'hui.
Est-ce que tu peux, s'il te plaît, te présenter et nous présenter aussi l'extraordinaire personne qui fait partie de ta vie ?
Bien sûr. Je m'appelle Ludivine, je suis belge d'origine, née aux États-Unis et ayant grandi en France. J'habite depuis 13 ans maintenant à New York avec mon mari qui est péruvien. Nous avons deux garçons qui ont 6 et 4 ans, Amadeo et Cosimo, et une petite fille qui aura bientôt 3 ans qui s'appelle Almudena ou Miu-Miu et qui est porteuse de trisomie 21. Je travaille comme avocate pro bono. Pour l'intérêt public. On propose de l'aide juridictionnelle en droit humanitaire de l'immigration. Donc c'est surtout des demandes d'asile et autre chose comme ça. Et récemment d'ailleurs, dans mon travail, j'ai eu la chance de pouvoir commencer à travailler pour des familles qui ont besoin de faire des procès en fait au département de l'éducation ici aux États-Unis pour avoir le support nécessaire justement pour leurs enfants qui ont des délais d'apprentissage. Donc un petit avant-goût de ce qui peut m'attendre pour Miu-Miu plus tard.
Et d'ailleurs, est-ce que c'est parce que Miu-Miu est porteuse de trisomie 21 que tu as décidé un petit peu de faire ça dans ton métier ?
Oui. Oui, tout à fait, tout à fait.
Alors, donc on va revenir sur son arrivée dans votre vie. À quel moment est-ce que vous avez appris qu'elle était porteuse de trisomie 21 ?
Son diagnostic de trisomie 21 a été confirmé à peu près un mois après sa naissance. En fait, lorsqu'on a reçu les résultats de son karyotype, j'avais quelques doutes avant, mais on va dire qu'officiellement, c'est plus ou moins un mois après sa naissance.
D'accord, un mois, dis donc,
ouais.
C'est beaucoup.
Oui.
Et du coup, pendant la grossesse, cette probabilité n'avait pas du tout été évoquée.
Non, il n'y avait pas eu d'indication, en fait, pendant la grossesse. J'avais 39 ans quand je suis tombée enceinte, alors on m'avait évidemment proposé de faire tous les tests vu mon âge avancé. Je n'y avais pas réfléchi en fait plus que cela à ce moment-là. J'ai fait un DPNI qui est revenu négatif et aucune des échographies en fait durant la grossesse n'avait relevé soupçon de trisomie 21.
D'accord, mais disons un DPNI négatif, c'est vachement rare, non ?
Je pense, c'est assez rare et donc j'en suis d'autant plus chanceuse, on va dire.
Tout à fait. Au début, on ne pense pas forcément ça.
Non, mais... comme tu dis, je pense que finalement, pour moi maintenant, ça ne fait que 3 ans de recul, mais diagnostic est finalement peut-être le moment un peu le plus difficile parce que la vie avec la trisomie 21, elle continue et elle va être très belle.
Oui. J'ai totalement le même sentiment que toi. La vie avec la trisomie 21, elle est belle. Et donc, comment t'as accueilli cette nouvelle au départ ?
Au final, en fait, le doute a commencé pour moi peu après sa naissance. J'ai eu une césarienne et je sais que j'avais pas pu la voir tout de suite. Elle était passée un peu de bras en bras. Mon mari l'avait pris dans ses bras, m'avait dit qu'elle était si belle. Elle s'est mise tout de suite à prendre le sein. Mais son cou était très mou. Elle avait besoin de beaucoup d'aide pour tenir sa tête. Bref, un peu dans toute cette commotion, j'avais pas eu le temps vraiment de la voir. Et au bout de 20 minutes, je suis sur mon lit. On me sort de la salle. Et là, je la sors fort dans mes bras et je peux enfin découvrir son petit visage. Mais je me souviens que je me penche vers elle et en fait, c'est elle qui me regarde droit dans les yeux avec ses petits yeux en amande. J'ai arrêté de respirer en fait. Personne ne m'avait jamais regardée déjà avec autant d'intensité. Mais je me souviens de m'être dit, mais est-ce que c'est même possible? Et 2 heures après la naissance, je me souviens qu'un pédiatre est arrivé, l'a examinée et nous a dit... qu'il pensait qu'elle était hypotonique et que cela pouvait vouloir dire certaines choses. Alors justement, vu le dépistage négatif durant la grossesse, il cherchait un peu autre chose. Tous ces moments ont été difficiles. J'ai eu peur pour elle, j'ai eu peur qu'elle ait des complications médicales. On m'a parlé de trisomie mosaïque aussi, que je ne connaissais pas, qui est lorsque il y a un chromosome supplémentaire sur certaines cellules et pas sur tous les chromosomes. Et donc voilà, après on rentre à la maison, le temps de faire tous les tests et les suivis. On passe quelques semaines avec elle, tout se passe très bien, elle est adorable, elle est trop mignonne, elle commence à sourire, elle est expressive comme j'avais rarement vu, et c'est un vrai bonheur. Et finalement on nous confirme donc un mois plus tard le résultat, que c'est bien une trisomie 21 complète, et donc pas mosaïque, et libre et homogène.
Et donc, quand tu as eu ce diagnostic, qu'est-ce que tu as ressenti exactement?
C'est fou quand même quand tu repenses à toutes les émotions dans lesquelles on passe. Je suis passée par tellement d'émotions, je me suis rarement sentie aussi vivante, on va dire, pendant tout ce temps-là, vu l'intensité de justement toutes les émotions. Évidemment, il y avait une part de surprise et d'incrédulité. On l'a vécu un peu dans le déni, qui était un peu là. Et après, on a été très bien accompagnés. La généticienne nous a confirmé, elle nous a expliqué, elle nous a tout de suite mis en contact avec justement les services aux États-Unis pour pouvoir commencer... thérapie. Elle nous a parlé du centre de Gigi's où toutes les familles et les enfants et les adultes porteurs de trisomie 21 se retrouvent. C'est des centres de réussite en fait qui t'accompagnent en fait du moment du diagnostic jusqu'à ce qu'il soit adulte. Donc il y a vraiment toute une communauté qui s'est installée finalement, et ma gynécologue m'a aussi mis en contact avec une autre de ses clientes qui avait vécu la même chose que moi 15 ans avant et qui s'avère être ma voisine. Donc voilà, et c'est vrai que petit à petit, c'est une communauté qui se construit autour de nous, et je me rends compte quand même qu'on a beaucoup de chance d'avoir autant de soutien finalement.
Tout à fait, c'est quand même vachement cool d'avoir une... Donc c'est un petit peu comme une maison où on peut se retrouver et il y a des gens porteurs de trisomie 21 et leur famille, c'est ça?
Oui, alors en fait, ils appellent ça un centre de réussite. Et en fait, ils te proposent beaucoup de choses différentes en fonction de l'âge de chacun. Mais ça commence avec justement des groupes pour les parents, pour les enfants très jeunes, des cours de musique, des cours de danse, des cours pour les enfants plus âgés, des cours de cuisine, des cours d'encadrement. Ouais. Et il y en a une cinquantaine aux États-Unis et au Mexique, je crois. Apparemment, j'ai cru comprendre qu'il y avait 200 demandes pour ouvrir ce centre dans le monde, à travers le monde. J'espère qu'il arrivera en France. J'avoue que c'est une ressource qui est vraiment très, très, très bien.
Oh là là, carrément. Est-ce que tu penses que vous auriez mis un terme à cette grossesse si vous aviez su que Miu Miu était porteuse d'un chromosome en plus?
Non, je suis sûre que non. Maintenant, c'est difficile de parler sans être face à ce choix.
Tout à fait.
Donc ça reste quand même un peu un sujet douloureux pour moi. parce qu'on ne sait jamais vraiment ce qu'on aurait fait jusqu'au moment où on est vraiment confronté à ça. Après, je sais qu'au fond de moi, c'est chacun de mes enfants, je l'ai eu parce que je voulais un enfant et avec Mimu, peu importe son diagnostic, c'est ce que j'aurais eu. J'aurais eu mon petit enfant. Donc là-dessus, je pense que voilà, c'était pas non, je pense que ça n'aurait pas changé ma décision. Et d'ailleurs, quelque part, pour moi, c'est le plus beau cadeau qu'elle aurait pu me faire. C'est quelque chose, je ne pouvais même pas imaginer, en fait, de recevoir un cadeau comme ça avec sa naissance. Et d'ailleurs, j'aime bien aller un peu à contre-courant. Et le fait de ne pas être comme tout le monde, ça me faisait aussi très plaisir.
C'est vrai.
Oui.
Quand vous avez eu le diagnostic de trisomie 21, quelles sont les émotions que tu as pu ressentir par rapport à tes deux aînés ?
Au début, toujours un peu cette peur quand même. On se demande, est-ce qu'on va réussir à retrouver l'équilibre de notre famille ? Est-ce que ça va changer les choses ? Est-ce qu'on va devoir revoir certaines choses qu'on pensait étaient acquises ? On a de la famille en Europe, on a de la famille au Pérou. J'imaginais tout de suite comment est-ce que je vais faire pour mettre trois enfants, dont une enfant porteuse de trisomie 21 dans un avion. Au final, c'est la plus facile à voyager avec.
Donc, on est d'accord.
Ouais, vraiment. Comme quoi, c'est vrai, voilà, encore une fois, maintenant je la regarde et je me dis, mais de quoi est-ce que j'avais vraiment peur ? De son amour, de son sens de l'humour, de sa beauté. Mais voilà, c'est comme ça. Elle apporte, elle nous apporte à tous quelque chose et je vois bien maintenant qu'elle est bien là pour une raison.
Et donc, ils s'entendent bien tous les trois ?
Oui, ils s'entendent très très bien. Les deux frères sont très touchants avec leur petite sœur. Ils sont déjà protecteurs envers elle, en fait. Il m'appelle vite quand elle met quelque chose dans sa bouche tout de suite. Ils sont vraiment, ils la prennent dans ses bras, ils sont très démonstratifs parce qu'elle l'est d'ailleurs aussi. Dès qu'il rentre de l'école ou dès qu'il rentre à la maison et qu'elle est là, elle court avec ses petits bras ouverts, elle veut absolument les embrasser tout de suite, elle crie leur nom de loin. Et quelque part, je vois aussi que les deux frères sont un moteur pour elle parce qu'elle elle mimique beaucoup ce qu'ils font et elle a envie de faire ce qu'ils font. Et là-dessus, c'est un peu comme une thérapie intégrée dans la famille parce qu'ils la poussent en fait beaucoup. Et elle adore faire comme eux. Elle nous fédère aussi beaucoup parce qu'en fait, elle nous ramène toujours autour de la musique, de la danse. Ça, c'est un jeu, enfin, en tout cas, c'est une activité qu'on peut faire tous les trois, parce que sinon, c'est pas toujours facile de trouver une activité pour faire avec les trois enfants. Mais la danse, c'est toujours quelque chose qui marche.
C'est cool. Ça doit être sympa, l'ambiance, chez vous.
C'est le soir, c'est jeu de mime, danse et musique, mais c'est aussi épuisant. Comme...
Ah oui. Ouais, j'en ai que deux, mais je veux bien te croire.
Ouais.
Et donc, est-ce que tu pensais, suite au diagnostic, que ta vie, elle ressemblerait à ça avec la trisomie 21 dans votre cocon familial ?
En fait, au début, quand on a le diagnostic, tout est réduit à ça, en fait. On pense qu'à ça, on pense qu'on ne voit que ça, on ne voit que la trisomie 21. Et en fait, c'est une toute petite part d'elle-même, en fait. C'est pas tout, c'est... C'est vrai que c'est difficile parce qu'en fait, on a tendance à réduire très fort au début et finalement, petit à petit, tu sors de ça. Il y a des jours où tu n'y penses même pas. Tu ne vois même pas la différence avec tes autres enfants. Au contraire, j'ai des enfants qui sont tous les trois très différents, qui ont tous besoin de soutien. Elle m'en demande finalement beaucoup au niveau des thérapies et au niveau des rendez-vous médicaux qui sont un peu plus, on va dire, plus souvent que ses frères. Mais je trouve que c'est quelqu'un qui est très heureuse. Voilà, mes deux garçons me demandent énormément d'attention aussi, et c'est pas du tout parce qu'elle a une trisomie 21 qu'en fait au jour le jour ou dans notre famille il y a une différence. D'ailleurs, quand elle est née, c'était un peu le début de la pandémie, on était tous les cinq, justement sans la société, on était juste tous les cinq. Et c'était un moment dont je me souviens que je regarde avec beaucoup d'affection, en fait. Ça a été un moment assez, assez magique de pouvoir profiter d'elle petite comme ça, sans personne extérieure. Et là, justement, le quotidien, il avance un peu plus avec, avec l'école, avec la société, avec tout ça. Mais ça reste un moment de joie à chaque fois avec elle, tous les jours. C'est d'ailleurs, c'est une actrice anglaise qui avait fait un documentaire, parce que quand elle avait eu son garçon, elle avait dit, tout le personnel médical m'avait dit de m'attendre à une tragédie, et en fait, c'est une comédie que je reçois. Et je trouvais ça assez juste, en fait.
J'aime bien l'idée, ouais. Tout à fait. Et d'ailleurs, les professionnels de santé, ils parlent souvent de décalage dans les apprentissages pour les personnes porteuses de trisomie 21. Est-ce que c'est également ce que tu ressens pour Miu Miu ?
Alors, oui, je pense que je le vois par moments. Bon, déjà, c'est pas grave. Chaque enfant apprend en fait à son rythme. Et une chose que je voudrais juste dire, c'est que c'est incroyable parce qu'en fait, avec le soutien qu'elle reçoit, avec toutes les thérapies qu'elle reçoit, moi, on va dire au jour le jour, je le vois pas le retard. Après, quand il faut se poser un peu plus des questions sur est-ce qu'elle est exactement au même niveau qu'un autre enfant de son âge ou à l'école, est-ce qu'elle est comme les autres enfants ? Non, je le vois qu'elle met un peu plus de temps dans son apprentissage, notamment avec le langage expressif qui reste un peu plus difficile. Mais c'est vrai que là-dessus, pour moi, la trisomie 21, c'est finalement ni plus ni moins qu'un handicap de l'apprentissage. Comment est-ce que tu peux justement apporter le plus de support que tu peux à cette personne pour qu'elle puisse apprendre en tout cas et qu'elle progresse à son rythme et qu'elle puisse avoir son potentiel. Mais c'est vrai qu'elle est intelligente, elle est active, elle est malicieuse, elle est drôle, elle a plein de choses comme ça qui font que même l'apprentissage avec elle, c'est un bon moment en fait. Et on répète beaucoup, on répète évidemment, tout est dans la répétition. Et je le vois aussi en fait parce qu'elle a des moments au plateau un peu en fait où on va essayer de faire des choses, on va essayer d'apprendre certains mots ou même essayer de faire deux mots ensemble. Et puis il n'y aura pas vraiment beaucoup qui se met en place. Et puis tout à coup, un jour, elle va, j'ai l'impression qu'elle elle a un pic en fait d'apprentissage et encore une fois elle n'a besoin de rien, en tout cas elle n'a besoin de rien prouver pour être ce qu'elle est. Elle est exactement comme elle doit l'être, à son rythme. Elle a une valeur absolument incroyable à apporter à la société, mais en tout cas elle n'a rien à prouver à qui que ce soit. Elle est juste exactement comme elle doit l'être.
Tu disais que niveau langage expressif, c'est là que tu vois le plus de décalage, on va dire. Est-ce que donc elle comprend, elle parle, elle signe ?
Oui, alors justement, au niveau du langage réceptif, je lui parle français, son père en espagnol et toutes ses thérapies sont en anglais. Je sais qu'elle comprend les trois langues sans problème. Mm-hmm. Ça, il n'y a aucun doute. Elle a commencé aussi à apprendre le langage des signes. D'ailleurs, moi, c'est quelque chose que j'adore faire avec elle et c'est un moment de plaisir de faire ces séances d'orthophonie avec elle, et on essaie de continuer justement le langage des signes, peu importe qu'il y ait des mots, qu'elle exprime des mots, on essaie de continuer avec le langage des signes, parce que je me dis toujours au fond de moi, si plus tard elle a des amis qui ne peuvent pas ou qui ont plus de mal avec le langage expressif, elle pourra communiquer avec ses amis justement en langage des signes. Donc ça, on continue. Elle a en tout cas ce côté réceptif qui est là. Au niveau expressif, je pense qu'il y a un peu un mélange de plusieurs choses. Il y a probablement le fait déjà qu'on parle trois langues plus le langage des signes. J'avais remarqué même avec mes deux garçons qu'au niveau du langage parlé, ils avaient mis un peu plus de temps aussi, temps d'emmagasiner en fait tout ce qu'on leur apprend.
Oui,
mais,
quand même.
Ouais. Mais après, elle a des mots. Elle dit des mots dans les trois langues, mais sa langue de prédilection, ça reste l'anglais.
En même temps, elle vit aux États-Unis.
Oui. Ça marche bien. Mais après, elle sait très bien me dire, par exemple, pas ça. Non, pas ça. C'est mignon. C'est mignon de l'avoir parlé les trois langues, en fait. Mais vraiment, c'est l'anglais que je vois au jour le jour.
Est-ce que, justement, tu pensais ça possible quand elle est née, par rapport au diagnostic ? Est-ce que tu pensais que, comme ses frères, elle pourrait, elle aussi, communiquer dans les trois langues ?
C'est vrai qu'il y a tellement de préjugés autour de la trisomie 21 que déjà, il faut déjà mettre ça de côté, on va dire, parce que moi, c'est un travail de tous les jours aussi de repousser, en fait, tous les préjugés sur la trisomie 21 que j'ai pu rencontrer ou que j'ai pu emmagasiner sans même m'en rendre compte, en fait. Ben, ça, c'est un travail que je fais tous les jours, qui est pas toujours évident, mais de vraiment me concentrer sur elle-même sans autre chose, sans ce qu'elle doit, encore une fois, prouver à qui que ce soit. En tout cas, au niveau des langues, on m'avait dit aussi on m'avait posé des questions. Est-ce que tu es sûre qu'il faut lui parler dans plusieurs langues? Est-ce que ça peut être un problème? Moi, j'ai toujours fait ce que j'ai ressenti au fond de moi qui était bien pour elle. Pour moi, c'était naturel de lui parler en français. Et je voulais continuer. J'avais fait ça avec mes garçons. Je voulais le faire avec elle aussi, de toute façon. J'en ai parlé avec son orthophoniste. Elle m'avait dit, bien sûr, elle peut apprendre plusieurs langues, ça n'a aucun problème. J'avais vu une étude aussi qui avait été faite au Pays de Galles, justement, je crois que c'était en 2019, sur les enfants porteurs de trisomie 21 qui parlaient aussi bien le gallois que l'anglais et qui parlaient aussi bien, en fait, les langues que ceux qui avaient appris l'anglais seul. Donc, il n'y avait aucune raison de croire que le bilinguisme était préjudiciable à l'enfant. Donc, on a finalement continué ça. Et encore une fois, elle n'a pas de limite, je ne lui mettrai jamais de limite. Je veux qu'elle puisse avoir la même enfance que ses frères. Et ben là-dessus, c'est comme ça qu'on fait. Et alors, on lui apporte le support qu'elle a besoin pour justement réussir à faire ce qu'elle doit faire en tant qu'enfant. Mais en tout cas, voilà, je refuse de lui mettre quoi que ce soit comme limite.
Je pense que c'est le plus beau cadeau à leur faire, les croire capables.
Et figure-toi qu'il y avait aussi une étude qui avait été faite par un pédiatre ici à Boston qui avait dit que les enfants et les adultes porteurs de trisomie 21 continuent d'apprendre toute leur vie, en fait. Et ben ça, justement, je crois que c'est un coup de pied, un énorme préjugé aussi. Voilà, moi je vois qu'elle a ce désir d'apprendre, elle est curieuse, elle a envie d'essayer. En plus, elle a une indépendance qui est par moments fulgurante, mais là-dessus, voilà, c'est elle qui, en fait, c'est elle qui nous mène le chemin et nous on suit. Et d'ailleurs, ça a été très fort le modèle qui a été pris par les thérapies ici où elle reçoit des services avec l'État de New York. C'est assez incroyable de voir justement comment il se centre autour d'elle et c'est elle qui donne le ton. Et alors le thérapeute va essayer de suivre avec elle et va évidemment à son programme en tête. Mais c'est assez rassurant aussi parce que justement au début tu peux te dire mais est-ce que j'en fais assez, est-ce que j'en fais trop, et ce questionnement avec un enfant en porteur d'un handicap, il ne s'arrête jamais, en fait, ça peut être épuisant. Et donc, finalement, avec ce modèle-là aussi, j'avais moins ce côté où je me sentais coupable de la faire travailler autant.
De lui imposer.
De lui imposer finalement toutes ces thérapies. Pourquoi ? Pour qu'elle essaye de ressembler à un autre enfant typique ou pas. Et en fait, je vois bien que ce n'est pas ça. Ce n'est pas quelqu'un qui lui dit « tu dois faire ça » et non, c'est comment lui faire pour justement lui donner les moyens, en fait, d'être indépendante et de pouvoir communiquer comme elle veut communiquer et de lui donner, en fait, tous les outils. Et ça, ça a été assez rassurant.
Et justement, est-ce qu'elle a beaucoup de prises en charge différentes ?
Oui, elle en a beaucoup, justement. Donc, dans ce programme particulier dont je te parlais, qui est pour les enfants porteurs d'handicap, en fait, de 0 à 3 ans, elle reçoit des services d'une orthophonie, donc trois fois par semaine. Elle reçoit de la psychomotricité deux fois par semaine. Reçoit aussi deux fois par semaine pour tout ce qui est motricité fine. Et elle reçoit, en fait, l'équivalent un peu d'une AESH, qui est un peu une prof... prof à domicile, on va dire, trois fois par semaine. Donc, en tout, elle a, pour l'instant...
Ah oui, 9, 10
beaucoup de séances.
Mais tout ça, c'est à la maison.
Tout ça, c'est à la maison. Les thérapeutes se déplacent à la maison. C'est d'ailleurs... c'est un programme qui est assez exceptionnel parce qu'il est gratuit. Donc, peu importe le niveau de moyens de la famille, peu importe le statut d'ailleurs d'immigration de la famille, chaque personne résidente à New York peut recevoir ces services. Les services en fait qui sont offerts par l'État de New York avec ce programme sont pour tous les enfants qui ont un délai dans l'apprentissage. Ça peut être pour un enfant par exemple qui met plus de temps à marcher, pour un enfant qui met plus de temps à parler.
Et donc, Miu Miu va, je le crois, bientôt fêter ses 3 ans. Tu disais qu'elle avait une nounou. Est-ce qu'elle va aller à l'école?
Oui, alors elle a une nounou qui est vraiment la personne clé de notre petit village, on va dire. Elle a une chance incroyable d'avoir quelqu'un qui danse et qui chante avec elle toute la journée. Et elles sont vraiment très, très chouettes à voir toutes les deux. Elle va aussi le matin à l'école, 3 fois par semaine, de 9 à midi. Elle va dans la même école que ses frères. C'est, je crois, la seule de sa classe qui a une différence pour l'instant. Ça se passe bien, elle a l'air contente. On a toujours un peu peur, après avoir vécu un peu seule, entre guillemets, pendant ces 2 années, c'est vrai que de la mettre à l'école et de voir que... qu'elle est plus, elle fait plus partie de notre foyer où on peut la protéger. Ça a été un peu difficile au début, mais
c'est plus une bulle.
On est plus, voilà, on sort un peu de la bulle. Et la première fois où je l'ai déposée à l'école le matin, ça a été difficile.
Est-ce que tu as des questionnements justement concernant la scolarité qu'elle pourrait avoir?
Oui, beaucoup de questions. Ça n'arrête pas. Encore une fois, on a envie du mieux pour elle. Qu'est-ce que c'est le mieux pour elle? Pour l'instant, pour moi, le plus important, c'est qu'elle soit heureuse et qu'elle soit dans un endroit où elle se sent aimée et valorisée. Donc là-dessus, évidemment, c'est ça que je recherche pour elle. Je continue à croire, pour l'instant, en tout cas, que l'inclusion totale, c'est-à-dire que des enfants qui sont porteurs de handicap et des enfants, on va dire, typiques dans la même classe, ça reste... la meilleure chose pour tout le monde. Donc là-dessus, je vais moi pousser pour que ça se passe comme ça pour elle. Donc chaque année, je vais revoir un peu avec elle comment ça se passe. Et après ces 3 ans, elle commence un autre service qui est de 3 à 5 ans où justement elle a accès à une AESH, elle a accès à d'autres services. Et là, je vais voir si justement, il y a des écoles qui ont peut-être un peu plus de soutien justement ou de choses mises en place déjà là-dessus. Donc, je regarde s'il y a dans le quartier, en tout cas, d'autres écoles. Ça se passe très bien avec les deux maîtresses qui sont là, mais je sais que justement pour les années qui viennent, il y a d'autres options aussi. Et d'ailleurs, je regarde pour voir laquelle serait la mieux pour elle.
C'est cool d'avoir plusieurs options.
Ouais, ça c'est. Oui.
C'est l'avantage des grandes villes.
Ouais, c'est l'avantage des grandes villes, exactement. Il y a beaucoup de choix.
Est-ce que tout à l'heure tu parlais donc de Gigi House, c'est ça?
Oui, Gigi's Playhouse.
Gigi's Playhouse. Et donc, est-ce que vous fréquentez d'autres familles qui vont aussi là-bas, mais est-ce que vous les voyez en dehors peut-être?
Oui, alors figure-toi qu'à travers, son orthophoniste et son autre thérapeute, j'ai demandé s'il y avait d'autres enfants porteurs de trisomie dans mon quartier. Et à ma plus grande joie, il y a 3 petits garçons de 6, 10 et 4 ans qui habitent à une dizaine de minutes à pied. On a commencé, un groupe WhatsApp où on discute avec les mamans, où on se retrouve au parc, on s'échange des informations utiles justement sur les écoles, sur les évaluations, sur les thérapies, tout ça. Et j'avoue que pour moi, ça a été justement découvrir cette communauté, découvrir toutes ces histoires d'autres familles. C'est quelque chose qui est assez fou et qui me donne vraiment beaucoup de joie. Et rencontrer ces mamans, pareil, c'est vraiment quelque chose sur lequel je veux continuer à rencontrer encore des familles et des enfants et plus tard des adolescents et des adultes porteurs de trisomie. Et grâce au centre Gigi's Playhouse, justement, tu rencontres plein de personnes.
C'est vrai que c'est une belle communauté qui vient avec ce handicap-là en particulier.
Oui, et quelque part, les réseaux sociaux, justement, ça me permet aussi de rester en contact avec des personnes partout. Ça m'a permis de te rencontrer toi, ça m'a permis de rencontrer certaines personnes que tu avais interviewées aussi avant. C'est quelque chose qui était une belle surprise, finalement. Moi qui n'étais pas très réseaux sociaux avant, c'est quelque chose qui fait maintenant partie de notre vie.
Parce que partager un petit peu de ton quotidien sur les réseaux sociaux, c'était pas du tout dans tes projets à la base.
Non, ça l'était pas et c'était pas quelque chose que je faisais avec mes garçons. J'étais quelqu'un d'assez plutôt pudique, on va dire, là-dessus. C'est vrai qu'Almou, elle a tout changé. Avec toutes les émotions qu'on a pu vivre en fait durant les premiers mois, je sais que une des émotions qui m'avait le plus marqué aussi était cette injustice en fait vis-à-vis des personnes porteuses de trisomie. Ou en tout cas ce décalage entre ces personnes complètement pleines d'amour, pleines de joie, qui sont des bonheurs, et bon, avec leur caractère, mais qui sont des personnes tellement belles, et ce décalage entre cette réduction à réduire quelqu'un à ce chromosome en plus, et ça m'avait fait beaucoup de peine. Et une des choses sur lesquelles je m'étais dit, c'était, voilà, il faut, nous, en tant que maman, il faut parler, refaire en fait le récit, quoi. Remettre le récit là où il doit être. Et pour moi, ça a été une manière de montrer, voilà, la vie tous les jours avec Almou, c'est ça. Pas toujours le temps vraiment de partager beaucoup. Et pour moi, ça reste mon petit poème en fait dédié à Miu Miu, cette page Instagram. Mais c'est vrai que c'est pour moi une manière de partager avec ma famille, avec mes amis qui sont loin. Et en même temps, avec des nouvelles personnes justement que je rencontre dans la communauté, voilà, ce quotidien avec les...
Qui est génial en fait.
Ouais.
Est-ce que tu trouves que l'inclusion des personnes porteuses de trisomie 21 aux États-Unis, elle est facilitée par tout ça, par peut-être la société, en comparaison avec ce qu'on a nous en Europe?
Oui, je le pense. Je pense qu'aux États-Unis, il y a quand même un peu une structure qui est déjà là en fait, qui a déjà été mise en place, une manière de parler qui est plus neutre et plus douce en fait, qui est plus inclusive, qui est plus... Je crois que voilà, aujourd'hui, je sais que si Miu Miu veut étudier, elle pourra aller étudier, elle pourra aller à l'université si elle veut. Si elle veut et si elle peut travailler, elle pourra trouver un travail. Si elle veut et elle peut se marier, elle le fera. Toutes ces choses-là, j'ai aucun doute et je le vois parce qu'il y a des exemples autour de nous aux États-Unis qui sont comme ça. Encore une fois, on voit un peu de tout et d'ailleurs avec les réseaux sociaux, on voit des enfants porteurs de trisomie 21 qui défient toutes les... On va dire qu'il défie toutes les expectations. Et bon, y a Chris Nicki qui vient de courir deux fois la course Ironman à 21 ans, qui a fait quelque chose que même peu de nous pourraient faire. Mais il y a aussi beaucoup, beaucoup d'enfants et d'adultes d'ailleurs qui ne vont pas faire des choses complètement incroyables de leur vie. Et c'est très bien aussi parce qu'ils auront une vie qui sera remplie, qui sera complète et qui aura des amitiés. Et là-dessus, je vois que j'ai complètement confiance ici aux États-Unis. Là-dessus, je ne connais pas encore très bien l'Europe et la France. Je le découvre grâce à vous. Mais je trouve que oui, on reste un peu plus.
Inclusif.
Ouais.
Qu'est-ce que tu penses que Miu Miu et sa trisomie 21 ont apporté dans ta vie, que ce soit des choses vécues positivement ou négativement, s'il y en a?
Pour moi, clairement, entre le jour de sa naissance où j'ai croisé son regard qui voulait tout dire, y a un avant et un après. C'est comme être passé à travers une porte et d'avoir découvert un nouvel endroit. Et jamais je voudrais retourner dans ce que je connaissais avant. Je suis très heureuse d'avoir découvert ce nouveau monde, entre guillemets. Elle apporte à moi et à notre famille un regard justement sur le handicap et sur la valeur en fait de chaque être humain qui est quelque chose que j'avais peut-être pas pris le temps de penser ou que je croyais savoir, mais je ne connaissais pas. Et là-dessus, vraiment, ma vie, elle est mille fois mieux avec mieux dans ma vie que sans. Donc là-dessus, j'ai aucun doute. Et d'ailleurs, c'est ce que je voudrais dire à n'importe quelle personne qui se retrouve confrontée à un diagnostic, que vraiment, il faut avoir confiance. Il faut avoir confiance dans le temps, parce que cette nouvelle vie que tu vas découvrir avec ton bébé, c'est quelque chose d'assez spectaculaire, et tu auras beaucoup de chance. Après, évidemment, il y a des choses qui sont... comme je disais un peu plus tôt, mais le suivi médical, oui, il y a plus de rendez-vous médicaux avec Almou. J'ai parfois encore peur quand je vais voir le médecin avec elle, s'il va me dire quelque chose que je n'ai pas envie d'entendre. Je sais qu'elle est plus souvent malade pour l'instant, en hiver. C'est de temps en temps de courir aux urgences au milieu de la nuit parce qu'elle a... Elle a une bronchiolite ou des choses comme ça.
Je connais donc, bien.
Donc voilà, mais tout ça, c'est évidemment quelque chose dont... C'est pas parce qu'il y a quelque part un peu plus de challenge avec elle au niveau administratif, au niveau médical, que ça la rend en fait moins humaine, ou ça ne rend les choses... Ça vaut le coup, en fait, ça vaut le coup de vivre ça entièrement et pleinement avec elle et avec sa trisomie 21. Et d'ailleurs, je trouve que on a besoin de normaliser beaucoup plus le handicap dans nos sociétés. Moi, c'était peut-être un mot que je chuchotais au début, la trisomie 21. J'avais peut-être un peu du mal à le dire au tout début, mais maintenant, j'ai plus du tout. C'est quelque chose qui fait partie de notre société, d'ailleurs, et qui, pour une raison, en fait, clairement, elle a apporté beaucoup de choses.
Justement, est-ce que grâce à sa trisomie 21, du coup, elle apporte à la société quelque chose qu'elle ne pourrait pas apporter sans cette particularité ?
En fait, pour moi, ça a été aussi une manière de découvrir en fait plus de handicap et en fait de la valeur du handicap pour la société. Voilà, le handicap, c'est humain. D'ailleurs, c'est quelque chose d'assez spectaculaire parce que ça renvoie à la résilience en fait et à ce que les personnes peuvent justement faire avec un handicap. Et le fait que ça n'arrête pas quelqu'un, le fait que cette personne a envie de vivre, d'aimer, d'avoir des amitiés, d'avoir toutes ces choses-là, moi, c'est quelque chose qui... En fait, on n'en parle peut-être pas assez. Moi, j'ai justement, grâce à la trisomie 21 d'Almou, j'ai aussi découvert des enfants qui sont porteurs de trisomie 21 et qui sont autistes. Et là-dessus, j'ai découvert beaucoup plus sur l'autisme. Et c'est quelque chose aussi qui est très important, en fait, de tous découvrir les différents handicaps qu'il peut y avoir. Elle apporte quelque chose en plus à la société, évidemment. Et d'ailleurs, je me souviens de cette étude qui avait été faite où il disait que 99% des personnes porteuses de trisomie étaient heureuses avec leur vie. Et aussi dans les 90 et plus, c'était aimer comment elles étaient, aimer à quoi elles ressemblaient. Tout ça, c'est extrêmement important parce que finalement, dans nos sociétés où être aussi grand ou aussi mince ou aussi je ne sais quoi... Ces personnes-là, on n'approche même pas la moitié de ces pourcentages.
Clairement.
Je crois que ça revient aussi toujours à ce point aussi où je me dis, une des perceptions encore, un des préjudices que les personnes porteuses de trisomie ont, c'est le fait de croire qu'ils souffrent. Moi, je ne le vois pas ça. Non, au jour le jour, je ne le vois pas. Elle est heureuse, ça se voit, ça se voit parce qu'elle le partage, elle le communique en fait, avec ou sans mots d'ailleurs, elle le communique avec tellement d'intensité que c'est vraiment un cadeau pour nous de pouvoir vivre. Et d'ailleurs, je pense que c'est un cadeau pour toutes les personnes qui ont quelqu'un porteur de trisomie dans leur vie, ce bonheur.
Et oui, parce qu'en fait, elle n'est pas juste heureuse, elle rend les autres heureux.
Oui, exactement, tout à fait. Je suis d'accord avec toi là-dessus.
C'est assez incroyable quand même comme
ouais.
particularité.
Oui, c'est vrai, c'est vrai.
C'est magique. Eh bien, merci beaucoup. Merci du fond du cœur, Ludivine, pour ce moment toutes les deux. Merci de nous avoir partagé votre histoire avec autant de bonheur, tout simplement. Parce que c'est cette vision de la trisomie 21 que tout le monde devrait avoir, une vision positive et qui permet à ses enfants de s'épanouir de manière entière, mais à leur rythme, en les croyant capables de réussir.
Merci Raphaël, merci d'avoir passé ce moment avec toi.
À bientôt alors.
À bientôt.
Vous venez d'écouter le dernier épisode de La Triférence. Merci pour votre écoute, votre enthousiasme, votre intérêt. Et rendez-vous le 21 du mois prochain pour découvrir un nouveau témoignage qui, je l'espère, vous fera sourire, réfléchir et résonnera dans votre cœur. Si ce podcast vous plaît, je vous invite à vous y abonner afin de ne pas rater les prochains épisodes et permettre ainsi son bon développement. Vous pouvez également suivre la page Instagram associée et partager son existence autour de vous pour faire connaître ce qu'est vraiment la trisomie 21 et ce qu'elle n'est pas